Chapitre 46. Le dernier témoin. Samedi, 19 août 2000, 10h57. Chemin du col de Claire, Nice. Depuis plus d'une heure, Simon attendait garé sur le côté, dans le petit chemin du col de Claire. Il ne se plaignait pas. Il avait une vue imprenable sur la baie des Anges. Le mouvement des yachts plus luxueux les uns que les autres lui occupait les yeux. Il se trouvait assurément dans le quartier le plus chic de Nice, sur la corniche dominant la vieille ville, la promenade des Anglais, le port de plaisance. La villa de Gabriel Borderie était comme toutes les autres, immense, blanche, somptueuse. On accédait à la maison par une rangée de palmiers et on devinait la vaste piscine dans le jardin. Un gazon coupé ras, des parterres de fleurs impeccables. Borderie devait payer à prix d'or un jardinier professionnel. 11 heures. Si la secrétaire ne s'était pas trompée, Gabriel Borderie n'allait pas tarder à arriver. Il ne fallait pas qu'il tarde. Simon pensait qu'avec sa Twingo, à attendre ici depuis déjà une heure, un voisin allait bien téléphoner à la police municipale. Des collègues, sourit-il. Une Renault Espace, vraisemblablement une navette spéciale de l'aéroport, dépassa Simon. Un type d'une quarantaine d'années descendit. Son allure surprit Simon. Il s'attendait à découvrir un PDG sévère, en cravate et costume sombre. Gabriel Borderie était habillé de façon décontractée, à la limite du négligé. Une vaste chemise à fleurs mal repassée, un pantalon de toile ample et assez sale, des sandales de cuir. Il arborait en outre un catogan et une barbe de 3 jours. Un routard, pensa Simon. Pas un PDG, un routard. Simon sortit de la Twingo et sprinta sur quelques mètres pour aborder Gabriel Borderie, qui attrapait la valise que lui tendait le chauffeur. « Monsieur Borderie, j'aimerais vous parler quelques instants. » Gabriel Borderie le toisa d'un regard beaucoup moins cool que les vêtements qu'il portait. « Désolé, on ne se connaît pas. J'ai volé une bonne partie de la nuit. J'étais encore à Bamako il y a 8 heures. Alors, vous allez prendre rendez-vous directement à la boîte, à Saint-André-de-la-Roche. » Simon n'hésita pas une seconde. « Moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Je viens de faire près de 1500 km en 15 heures pour venir vous trouver là. » Gabriel Borderie, sans écouter, s'enfonçait déjà sous les palmiers avec sa valise. « J'arrive de Morne-Saye !» lança Simon. Le sésame. Borderie se retourna aussitôt. Simon débita d'une traite. « Je viens de l'île de Morne-Saye pour vous rencontrer. Vous posez des questions sur Jean-Rémy, sur sa disparition, sur les hectares d'abbaye que vous avez en gestion et sur son fils, Colin, qui en est devenu propriétaire aujourd'hui. » Gabriel Borderie se passa la main sur le front, sans comprendre. « Il est arrivé quelque chose à Colin ?» demanda-t-il inquiet. « J'en sais rien, j'espère que non. Vous êtes de la police ?»« Presque. » Gabriel Borderie sourit de toutes ses dents blanches. « Je vous offre un café ? On va en avoir besoin tous les deux, je crois. »« Volontiers. » Simon entra dans la villa. Il n'avait jamais rien vu de plus lumineux. Des tableaux contemporains, des carrelages blancs étincelants, des meubles high-tech, et, comme une évidence, la piscine sous la véranda, et, devant la piscine, une très vaste terrasse orientée plein sud. Ils s'installèrent dans de profondes chaises en rotin, sur la terrasse ensoleillée avec vue sublime sur la Méditerranée. Gabriel Borderie alla à la cuisine mettre en route une cafetière et revint vers son visiteur. « J'ai fait du chemin, moi aussi, depuis l'île de Morne-Saye, » fit Borderie. « De la Manche à la Méditerranée. Mais l'île de Morne-Saye a son charme. Un peu moins de soleil, mais davantage de mystère. « Vous faisiez quoi, Bamako ?» demanda Simon pour engager la conversation. « Je négociais l'extension du campus universitaire. La colline du savoir, ils appellent ça. Sur la rive droite du Niger. Le nombre d'étudiants explose au Mali. Ils commencent à penser qu'il est peut-être utile de recevoir ces étudiants dans des conditions décentes. Je négociais le marché. Plusieurs milliards de francs CFA. Je suis le plus cher de tous. » Il éclata de rire devant les yeux étonnés de Simon. « Le plus cher ! Vous avez entendu parler d'architectes équitables, non ? Je fais travailler des architectes maliens. » Des maçons maliens, des ouvriers maliens. Tous majeurs, payés honorablement avec une sécurité sociale assurée pendant le chantier. J'utilise des matières premières maliennes. Mais une fois terminé, tous les bâtiments seront aux normes écologiques internationales. Les normes ISO et compagnie, vous connaissez. Et ils vous choisissent ? S'étonna Simon. Même si vous êtes le plus cher. Évidemment, je croule sous les demandes des États qu'on dit en développement. Certains par conviction citoyenne, d'autres pour leur image de marque. et tous surtout parce que, faisant appel à moi, ils sont grassement subventionnés par la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FMI, l'Union européenne. Développement durable et bonne gouvernance, les deux mamelles d'Ecostone. Simon ne put s'empêcher d'observer avec gêne le palace de ce PDG excentrique. « J'ai été le premier, » continua Gabriel Bordery, décidément bavard, « à me lancer dans l'urbanisme écolo, il y a 20 ans. Au début, personne n'y croyait. Ça a été dur. Avec ma première boîte, Eurobuild, j'ai ramé. »«
Surtout après l'affaire de l'île de Mornecey, » glissa Simon.
« Oui, bien sûr. Je dois une fière chandelle à Jean-Rémy sur ce coup-là. S'il n'avait pas endossé la responsabilité de tout, aujourd'hui je serais peut-être entre quatre murs moins blancs. »
Il explosa à nouveau de rire. Il partit dans la cuisine chercher le café, sans cesser de parler.
« Après le scandale d'Eurobuild, j'ai changé le nom de ma boîte. Ecostone sonnait pas mal. J'ai recommencé à me concentrer sur l'international, étant donné la publicité qu'on m'avait faite en France. Je suis arrivé au bon moment. J'ai monté une sorte de réseau d'architectes sans frontières, avec charte de qualité, code de bonne conduite. Ça a décollé en quelques années. »
Il revenait avec le café.
« 300 employés sur le site de Nice. 10 fois plus dans le monde. Presque tous entre les tropiques. Un joli petit réseau de relations diplomatiques. Je suis intouchable maintenant. Que ce soit par les petits mafieux de la Côte d'Azur ou ceux de cette île de truand qu'est Mornecey. »
Simon sursauta à cette allusion.
Intouchable, affirma Bordery. C'est pour cela que Jean-Rémy m'a choisi il y a 10 ans. Parce qu'il avait confiance en moi, mais surtout parce qu'il savait qu'il ne me mettait pas en danger. Je n'étais pas de l'île, j'étais loin. Et puis, tout de même, déjà, je pesais lourd.
Gabriel Bordery leva sa tasse de café et trinqua en regardant l'horizon bleu azur.
J'ai pas l'air, poursuivit-il. On me donnerait le bon Dieu sans confession. Beaucoup m'ont pris pour un écolo naïf, un rêveur pas très dangereux. C'est ce qu'ont souvent pensé mes concurrents. Tant pis pour eux.
On ne construit pas un empire comme Ecostone sans savoir se protéger, sans savoir jouer des coudes dans la jungle de notre bonne vieille compétition libérale mondiale.
On construit Ecostone avec des convictions profondes et un sens solide des réalités.
Il retira sa chemise et offrit son torse bronzé, particulièrement musclé, au soleil du matin.
« Pour résumer, » continua-t-il, « aucune de ces ordures de l'île de Mornecey n'a jamais osé venir m'emmerder ici depuis que... »
Il s'arrêta brusquement et sembla soudain enfin regarder Simon.
« Vous êtes qui, au fait? Ça veut dire quoi, ça, presque de la police ?»
Simon déclina rapidement ses fonctions pour se concentrer sur l'urgence. J'aurai sûrement le temps de vous donner davantage de détails, mais le plus important, c'est que Jean-Louis Valerino, sans doute une de ces ordures que vous avez connues il y a 10 ans sur l'île, s'est évadé de la prison Mazarin, la citadelle de Mornecey. Il a descendu son compagnon de cavale de 2 balles dans le dos et l'a enterré dans le sable. Cela fait la une des journaux depuis 3 jours, mais peut-être pas jusqu'au Mali. J'ai découvert que ce Valerino avait trempé dans le scandale de Robild. Il a certainement aussi trafiqué le plan d'occupation des sols de l'île de Mornecey. Gabriel Bordery ouvrit des yeux ronds. Simon se leva à son tour pour se donner de la prestance.
Et coïncidence étrange, ce Valerino programme sa cavale au moment même où Colin doit devenir le propriétaire légal du terrain de l'abbaye. Ce terrain qui a été trafiqué par Valerino. Le terrain sur lequel votre chantier causa la mort de 3 ouvriers. Ce terrain où la légende raconte qu'un trésor inépuisable est caché.
Rien que ça, fit Bordery sans se décontenancer.
Rien que ça. Et comme j'y comprends rien, je me suis dit que vous, peut-être...
Gabriel Bordery se passa la main dans les cheveux, resserrant le foulard qui serrait son catogan.
Je vais vous faire confiance, Simon. C'est mon métier. 20 ans que je bosse à l'instinct. Je me trompe rarement. Vous avez des nouvelles de Colin Rémy?
Aucune. Je suis passé hier chez ses tuteurs, à Cormeilles en Parisie, mais ils n'étaient pas là.
Gabriel Bordery eut l'air inquiet. Je n'aime pas ça. J'ai toujours dit à Jean qu'il avait été imprudent. Cette histoire de dossier, de testament, d'aveu de révélation chez le notaire. C'était beaucoup trop dangereux pour son fils, même 10 ans plus tard. Une véritable bombe à retardement.
« Vous allez trop vite, » coupa Simon.
« Je ne vous suis plus. »
Gabriel Bordery sembla jauger Simon une dernière fois.
« Je vais vous faire confiance jusqu'au bout. Demain, je suis au Cap-Vert. Je prends mon avion à 23h ce soir. Vous voyez, je n'ai pas d'autre choix. »
Il prit une télécommande sur la table basse, la pointa sur un mur blanc en composant un code. Une invisible trappe dans le mur s'ouvrit. Une sorte de coffre-fort d'environ 50 cm carrés. Il attrapa un gros dossier cartonné à couverture orange.
« Je n'ai pas touché à ce dossier depuis une décennie, » commenta Bordery. « Jean-Rémy me l'a confié juste avant sa mort. Juste avant d'en déposer un autre, pour son fils, chez le notaire de l'île de Mornecey. »
Simon ouvrait des yeux ahuris.
« Jean-Rémy était mon meilleur ami, » poursuivit Bordery. «
Le seul à qui je pouvais faire confiance, sans limite. Un idéaliste, impur. Et pour ainsi dire, je suis la dernière personne à l'avoir vu vivant.